est 11h30, Infomag, Jean-François Baudin.
Marie-Guève nous termine son séjour sur le territoire. Beaucoup d'entretiens et peu de déclarations de la part de la ministre déléguée aux Outre-mer qui avait annoncé prendre une posture d'écoute. Les émeutes du 13 mai et leurs conséquences. Le foyer Bethany a fermé ses portes hier. À l'île des Pins, la sage-femme quitte son poste au CMS et le dentiste annule ses vacations. Un nouveau commandant pour la base navale de Nouméa depuis ce matin. Elle est désormais dirigée par Julien Faure qui a servi notamment à bord des sous-marins nucléaires d'attaque de la Marine nationale. En métropole, Lucie Castet épinglée, désignée candidate à Matignon par le nouveau Front populaire. Elle se serait mise en défaut réglementaire par rapport à son poste à la mairie de Paris. Et enfin, les JO et une seule médaille pour la France la nuit dernière en argent pour le kayakiste Titouan Castric. Kevin Mayer blessé renonce au décathlon. Le nageur calédonien Maxime Grousset renonce lui à la finale du 50 mètres nage libre pour se consacrer au 100 mètres papillon, son épreuve de prédilection. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Nous allons développer tous ces titres. Mais avant cela, présentation du magazine Transparence que l'on retrouvera dès la fin de ce journal. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Votre invité aujourd'hui sera donc
Philippe Blaise. Philippe Blaise, élu Les Loyalistes, président du MRC, premier vice-président de la province sud. Ce sera donc notre invité dans le magazine Transparence et nous l'interrogerons sur l'analyse qu'il fait de la situation de la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai, sur les urgences à ses yeux, sur les préoccupations et sur les solutions éventuellement pour en sortir. Un tour d'horizon global de la situation politique et économique de la Nouvelle-Calédonie en compagnie de Philippe Blaise, c'est d'ici une petite demi-heure.
Et on vous retrouve à 16h45 pour le Club politique Radio Rythme Bleu.
Et au sommaire de ce Club politique, un point de la situation sur le terrain, comme nous le faisons maintenant depuis plusieurs semaines, 12 semaines. Nous reviendrons également bien sûr sur la brève visite de Marie Guévenoux, la ministre déléguée en charge des Outre-mer. Et ce sera aussi l'occasion d'aborder la situation politique nationale avec un gouvernement démissionnaire et ses conséquences. Et puis nous parlerons également de la démission du Sénat coutumier d'Hippolyte Sinewami, le président du Conseil des grands chefs et de ses projets pour le 24 septembre. Nous reviendrons enfin sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris et sur les réactions que cela a suscité. Le Club politique qui débute à 16h45 et qui est rediffusé le samedi matin à partir de 11h.
Marie Guévenoux quitte donc le territoire aujourd'hui. Arrivée mercredi soir, la ministre déléguée aux Outre-mer avait annoncé qu'elle souhaitait prendre une posture d'écoute. Dès son arrivée, elle s'était entretenue avec la présidente de la province sud, Sonia Backès, avant d'échanger longuement avec les forces de l'ordre et de sécurité réunies au commissariat central de Nouméa. Elle a aussi rencontré les acteurs politiques, notamment les groupes politiques du Congrès, mais aussi le président du gouvernement et le président du Congrès. Elle a également eu une séquence avec les maires et une autre avec le monde économique. La ministre n'a fait quasiment aucune déclaration publique. Elle a seulement déclaré que les Calédoniens, avec l'aide de l'État, doivent retrouver les voies d'un destin commun. Et puis le cabinet de la ministre a, lui, reçu un certain nombre de délégations, dont l'association Citoyens Mondorien ce matin. Son président, Florent Perrin, a souhaité faire passer 3 messages à l'État.
C'était très important qu'on puisse porter cette voie-là. On leur a fait part de l'urgence de débloquer la route de Saint-Louis. Ce sera remonté directement au président de la République qui donnera l'ordre ou pas de faire cette intervention qu'on attend tous. Donc ça veut dire que s'il n'agit pas dans les prochains jours, on va commencer à manifester. Hein. C'est pas possible, on ne peut plus rester comme on est. Donc oui, maintenant il faut une réaction et une action très rapide. Le deuxième message, c'est que dans la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie, nous avons demandé à ce que nous soyons prioritaires pour notre viaduc, qui est une nécessité absolue aujourd'hui. Et enfin, c'est de pouvoir avoir un ferry en fait, en attendant la construction du pont. Donc voilà, les choses seront remontées directement au président de la République. Et ben maintenant, on attend un retour très rapide, notamment pour la libération de la route.
Et je vous rappelle que la route est actuellement bloquée par les forces de l'ordre qui contrôlent toutes les entrées et les sorties au niveau de la tribu.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Êtes-vous favorable à l'instauration d'un jour de carence dans le secteur public, comme le propose le gouvernement, avec pour objectif de maîtriser les dépenses de fonctionnement dans le secteur public? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier, 84% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent que c'est dans le domaine de l'ordre public qu'ils attendaient surtout des réponses de la part de Marie Guévenoux, la ministre déléguée aux Outre-mer. Ils sont 16% à dire qu'ils attendaient surtout des réponses dans le secteur économique. La question de l'avenir institutionnel n'est pas pour eux une préoccupation du moment. Les émeutes du 13 mai et leurs conséquences, Pronieri Sourcils prolonge le recours au chômage partiel pour la majorité de ses équipes. L'industriel indique dans un communiqué que les activités minières et industrielles sont toujours à l'arrêt depuis le 13 mai en raison d'un manque d'accès à l'eau brute et à l'électricité. Seule une équipe restreinte est mobilisée sur le site pour assurer la sécurité des installations. Et pour soutenir ses employés pendant cette période d'incertitude, PRNC a mis en place une cellule d'accompagnement psychologique pour offrir un soutien adapté à ceux qui en ont besoin. Le centre médico-social de l'île des Pins est lui contraint d'aménager ses horaires. La décision a été prise par la province Sud en raison du départ de la sage-femme du CMS et de l'annulation des vacations du dentiste sur l'île, Léana Colombo.
Oui, le CMS de l'île des Pins ne disposera plus que d'un seul médecin à compter de ce lundi. Ces départs sont la conséquence des nombreuses exactions et agressions dont est victime le personnel soignant depuis le 13 mai. Patricia Pedre est la directrice adjointe de la DEPAS pour la province Sud.
Ces départs qui sont dus malheureusement à la situation actuelle, aux émeutes. Nous avons quand même nos agents qui ont vécu des moments plus ou moins difficiles, en tout cas très inconfortables, avec de la maltraitance. Certes, pas du tout de violence physique. Hein, et malheureusement, il arrive très régulièrement en ce moment que nos agents, quels qu'ils soient dans n'importe quel CMS, vivent des situations un peu conflictuelles. C'est jamais très très agréable de travailler dans ces conditions-là, c'est jamais très serein. Certains ont préféré partir suite à ces insultes, que ça soit directement sur eux ou directement vers leur famille. Et il faut pas oublier que ces familles vivent aussi des situations qui peuvent être délicates.
Le centre sera donc ouvert de 8h à midi et de 13h30 à 17h du lundi au jeudi, de 8h à midi et de 13h30 à 16h le vendredi. En dehors de ces heures d'ouverture, comme en cas d'urgence, les patients doivent appeler le 15, qui est un numéro gratuit. La province Sud conseille aux patients fragiles et femmes enceintes de se rapprocher de la Grande Terre. Et pour rappel, c'est le CMS de Thiot qui a fermé ses portes il y a une semaine après le retrait des médecins ou encore de la sage-femme.
Et puis la province Sud réagit et met les choses au point après la fermeture hier du foyer Béthanie. Dans une lettre adressée au président de l'association d'entraide sociale du quartier latin, la province prend acte des décisions anticipées de mettre fin à l'activité du foyer Gilles Ménage.
La polémique est née en partie sur les réseaux sociaux et elle a été relayée par certains médias qui ont accusé le foyer Béthanie tout simplement d'abandonner ses pensionnaires. En réalité, depuis le début des émeutes, certaines femmes accueillies au foyer ont eu soudainement un comportement très agressif. Des membres du personnel et en premier lieu sa directrice depuis 17 ans ont été ciblés par des menaces de mort et des insultes à caractère raciste qui ont rapidement dégradé le climat au sein de l'établissement. Mais l'association Béthanie a également mis sa décision de fermer le foyer et de licencier tous ses agents sur le compte des baisses de subventions de la province Sud. C'est totalement faux, précise le secrétaire général de la province, Nicolas Panier.
Il faut déjà rappeler que c'est une association qui gère ce foyer, donc c'est l'association qui prend des décisions. Et cette association, elle nous a indiqué à un moment qu'elle voulait cesser de manière anticipée son activité. Donc nous, on ne peut que prendre acte des choix de l'association qui gère ce lieu. Ensuite, il a été dit que nous n'aurions pas versé l'intégralité de notre subvention. C'est totalement faux. On verse au foyer Béthanie, comme aux autres CHRS en début d'année, une première partie de la subvention. Et ils ont jusqu'au 30 juin pour nous envoyer le bilan de l'année précédente. Et on verse le solde. Jusqu'à présent, l'association Béthanie nous a pas envoyé les éléments qui nous permettraient de verser le solde. Et en plus, ils ont annoncé, y compris sur les réseaux sociaux, que de toute façon, ils souhaitaient par eux-mêmes fermer la structure pour des raisons que nous n'avons pas à juger et qu'on peut comprendre au regard de la dureté de la situation. Mais en tout cas, ce n'est pas une problématique d'aide, ce n'est pas une problématique de budget. Entre 2019 et 2024, l'ensemble des subventions que la province donne à l'ensemble des foyers qui accueillent des personnes aujourd'hui qui ont besoin d'être hébergées, le budget a augmenté de 10%. Donc la province a fait un effort très significatif à destination de ces populations les plus fragiles, mais ça doit se faire dans un cadre, ça doit se faire selon des règles, et ça doit se faire surtout avec des structures qui font le choix ou arrêtent de faire le choix d'avoir cet hébergement-là, mais il faut qu'elles assument les choix et les décisions qu'elles prennent. Ce n'est absolument pas une problématique de soutien budgétaire.
Depuis de nombreuses années, le foyer Béthanie du quartier latin accueillait en permanence 25 pensionnaires, pour la plupart d'ailleurs des femmes victimes de violences conjugales. De son côté, l'association déclare aujourd'hui se réserver le droit de porter plainte contre les propos diffamatoires et calomnieux répandus sur les réseaux.
Et puis les exactions se poursuivent aussi à Saint-Louis. Hier matin, une société de pompes funèbres a été rackettée à hauteur de la tribu, Nicolas Legrand.
Oui, cette entreprise est alors appelée pour récupérer un corps au Mont d'Or Sud. Après un arrêt à la gendarmerie de Saint-Michel pour vérifier si l'accès est praticable, le camion emprunte la RP1 sans aucun incident à l'aller. C'est au retour que le transporteur est arrêté par des individus qui exigent de fouiller le camion frigorifique. Ils demandent d'ouvrir les portes du véhicule et, méfiants, ils iront même jusqu'à ouvrir la housse mortuaire pour vérifier qu'il s'agissait bien d'un corps qui était transporté. Les malfaiteurs ont ensuite racketté les employés en leur demandant leur argent. Une plainte a été déposée, notamment pour violation de sépulture.
Il est 11h41. Dans un instant, la suite de ce journal avec la suite de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Réduire les dépenses dans le secteur public, c'est l'objectif affiché par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a adopté mercredi plusieurs textes relatifs à la situation créée par la crise insurrectionnelle. Deux avant-projets de loi du pays ont été adoptés. Le premier relatif à l'instauration d'un jour de carence dans la fonction publique à partir du troisième arrêt maladie de l'année. Sur ce point, Christophe Coulson, le président de l'UTCFE-CGC qui était notre invité à 7h30, est en phase avec l'exécutif. En revanche, il s'oppose à la suspension exceptionnelle et temporaire des avancements. Le texte propose de geler temporairement sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 le décompte de l'ancienneté nécessaire à l'avancement d'échelon.
Deux années blanches et nous sommes contre en fait parce que les mesures sont prises de façon isolée et nous aurions préféré que d'autres mesures de réduction des dépenses soient prises en même temps que celles qui concernent les fonctionnaires.
Mais alors quelles autres réductions de dépenses par exemple ?
Bah, écoutez, il y a des réductions de dépenses en matière sociale, en matière fiscale. Je crois que là, on va toucher à un champ beaucoup plus large que celui de la fonction publique. Les agents publics, hein, parce qu'il n'y a pas que les fonctionnaires, il y a aussi les contractuels. Nous, il n'y a pas de souci pour participer. Il n'y a aucun souci. Mais l'effort doit être réparti sur l'ensemble de la population de la Nouvelle-Calédonie, pas que sur les fonctionnaires.
Christophe Coulson, le président de l'UTCFE-CGC, regrette notamment les dernières mesures d'urgence à l'étude pour faire face aux difficultés de la CLR. À savoir la hausse d'1% des cotisations des actifs et une baisse de 3% des pensions des retraités.
C'est eux qui viennent payer la facture de décisions qui ne sont pas prises pour diminuer les dépenses de la Nouvelle-Calédonie. Ce que nous, on trouve dommage, c'est que cette augmentation de cotisation d'1% qui est prévue à compter du 1er août, elle était prévue dans l'ancienne délibération, mais
progressivement.
Elle était prévue sur un calendrier de 3 années à hauteur de 0,3% par an. Tout ça pour la raison suivante, c'est que certains employeurs ne paient pas leurs cotisations patronales, voire salariales. L'acte 1 nous avait amené à un déficit mensuel de moins 16 millions et aujourd'hui, on se retrouve avec 700 millions d'impayés en matière de cotisations.
Mais alors, quelles sont les collectivités ou les groupes qui ne payent pas ces cotisations ?
Il y a au moins les hôpitaux et puis après, il y a d'autres collectivités, comme les communes, donc communes de Pointe-d'Imier, de Thio, commune de Canala, commune de Wailou, commune de Bouaille à un moment, et puis la province des îles, qui a une importante somme à payer et qui correspond à peu près à 190 millions CFP.
L'UTCFE-CGC a écrit aux élus pour proposer la mise en place d'une TGC sociale et demander à ce que l'IRPP soit payé par l'ensemble des actifs à hauteur de leurs moyens, afin que l'impôt ne soit plus supporté seulement par 25% des travailleurs. Le gouvernement rappelle d'autre part que la taxe sur les produits sucrés est entrée en vigueur hier. Toutefois, compte tenu de la situation, cette taxe ne s'appliquera qu'à partir du 1er septembre. Elle est due par les importateurs au moment de l'arrivée des marchandises sur le territoire ou alors pour les producteurs locaux. Une passation de commandement ce matin à la base navale de Nouméa. Après 3 ans passés à Nouméa, le pacha de la base, le capitaine de vaisseau Guillaume Montagnier, quitte le territoire pour rejoindre la métropole, Gilles.
La base navale de Nouméa, c'est une emprise de 22 hectares, un équipage de 110 marins et désormais 3 quais, dont le dernier d'ailleurs a été inauguré le 4 décembre 2023 par le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Une base navale qui sera désormais commandée par le capitaine de vaisseau Julien Faure, ingénieur naval de formation. Il a notamment servi à bord des sous-marins nucléaires d'attaque de la Marine nationale et rejoint Nouméa aujourd'hui dans un contexte particulier.
Il y a un contexte opérationnel très particulier qui est lié à la période actuelle. C'est une base qui a une activité relativement dense, dont la mission première est naturellement de soutenir les unités qui sont embasées, donc de la Marine nationale, mais aussi de participer à l'activité des forces armées en Nouvelle-Calédonie. C'est une responsabilité particulière d'être au rendez-vous. Je prends ce commandement dans un état d'esprit de confiance, J'hérite d'une base qui est opérationnelle, qui a su répondre au contexte un petit peu particulier du territoire. J'ai un équipage soudé et je suis absolument confiant en l'avenir.
La cérémonie de passation de commandement avait lieu ce matin au cœur de la base navale de Nouméa, une base très importante et très dynamique, souligne le général Latil, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie.
C'est une base qui déjà était extrêmement importante pour le dispositif des FANC et qu'on renforçait à travers des capacités nouvelles, pas supplémentaires en nombre, mais en puissance, avec un patrouilleur qui est arrivé l'année dernière et qui offre une permanence à la mer pour être davantage présente dans nos zones de souveraineté. Mais aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons, c'est une base qui a pris de l'ampleur et qui est montée en puissance sur d'autres sujets. C'est du transport de matériel, du transport de passagers, du transport logistique. Pour nos moyens qui sont à Ploum et qui sont, comme vous le savez, isolés, on essaie de faire le maximum pour venir aussi au secours des habitants du Mont d'Or, qui peuvent profiter de ces navettes lorsqu'elles sont disponibles et pas utilisées pour les moyens militaires. Et c'est une des mission principale de la base navale, désenclaver Ploum, désenclaver le Mont d'Or lorsque c'est possible aussi pour les habitants.
Depuis 3 ans, c'est donc le capitaine de vaisseau Guillaume Montagnier qui commandait la base navale de Nouméa, des années très denses, nous a-t-il dit.
La base navale de Nouméa est une vitrine de l'investissement de la France dans ses outre-mer, puisque pendant mon temps de commandement, j'ai reçu 3 nouveaux bateaux, 2 nouveaux remorqueurs et le premier patrouilleur outre-mer français, l'Auguste Benebig. Nous avons également construit un quai remarquable qui nous offre beaucoup de possibilités d'interaction. Et tout cela, nous avons pu le mettre en œuvre pendant les événements en assurant de nombreux transports au profit direct de la population, par voie maritime, par voie amphibie, soutenir tous les hélicoptères qui venaient délivrer de la nourriture aux populations et soutenir l'ensemble des forces de sécurité intérieure.
Évidemment, on ne quitte pas un commandement tel que celui-là sans une certaine émotion.
Beaucoup d'émotions. Le Caillou, les Calédoniens sont très attachants. Lorsqu'on est commandant, on donne beaucoup de sa personne. Le professionnalisme de l'équipage, son dévouement nous aide à aller toujours plus haut. Donc c'est une énorme charge pour un commandant. Et là, effectivement, aujourd'hui, cette charge descend. Je suis très ému et très triste de quitter le Caillou.
Le capitaine de vaisseau Guillaume Montagnier qui va donc quitter le territoire pour rejoindre l'état-major des marins-pompiers à Marseille.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 11h48.
Comment ont évolué les habitudes de consommation des acheteurs depuis le début des émeutes ? Farine, riz, pâtes, les rayons aujourd'hui ne sont plus vides. Mais de nombreux consommateurs continuent de stocker. Ils expliquent que l'absence de transport public ne leur permet pas de se déplacer aussi librement qu'avant. Et ils craignent aussi de faire face à de nouvelles difficultés d'approvisionnement à l'avenir.
Je fais des stocks, oui. Ben, du riz, les pâtes, tout ce qui peut se conserver sur longue durée, au cas où si on vient encore en manquer. Tout revient, le pain, la farine, tout est là, mais bon, dans quelques temps, on ne sait pas.
On nous dit qu'il faut faire du stock, parce que là, ce qui paraît, ça va repartir en septembre.
Ben là, c'est plus pour une mamie qui fait sa réserve. Du coup, ben, là, je prends déjà 2 kilos, mais là, on a déjà 2 à la maison. C'est juste faire son stock pour éviter qu'elle... Ben, elle n'a pas de voiture. Elle m'envoie pour... faire ses courses. On fait plus attention à ce qu'il y ait toujours à manger à la maison pour éviter de se déplacer.
Et de nombreux produits ont retrouvé leur place sur les rayons, mais l'offre de choix n'est pas pour autant complète. En conséquence, les consommateurs se rabattent sur des produits plus chers et la hausse des prix se fait d'autant plus ressentir sur leur budget.
Ouais, les prix là, c'est une cata, quoi. C'est alarmant même. Là, c'est calcul sur calcul. On attend les sous qui rentrent, mais ça rentre plus. Parce que là, le chômage, on attend, il est toujours pas tombé. Après, il n'y a plus les sous pour faire le stock comme il y a un mois et demi, quoi. Puis en plus, on n'a même plus tous les choix de produits comme à un moment. Donc, on a limite plus le choix maintenant que de prendre les marques chères.
Bah, tout augmente, hein, plus ou moins. Les produits locaux aussi. On réduit quand même. Il y a des choses que je n'achète plus non plus. Le poisson, bah, les fruits, les légumes, on surveille tout. On fait attention.
Et puis une autre façon de faire ses courses, le marché solidaire de Païta, des stands gratuits pour aider les commerçants victimes des exactions à écouler leurs produits ont été mis en place. Un moyen de redynamiser l'économie de la commune et aussi de permettre aux habitants de Païta de se retrouver, Sarah Mégerie.
C'est un marché ouvert aux particuliers et aux petits producteurs, une initiative lancée par la mairie de Païta en partenariat avec les associations caritatives de la commune. Des stands gratuits sont donc proposés au cœur du marché municipal, un moyen de permettre aux vendeurs de bord de route de retrouver leurs clients de manière légale et en toute sécurité, explique Anouk Lefer, adjointe au maire de Païta.
on avait beaucoup de gens qui vendaient des affaires, des marchandises sur les bords de route. Alors d'une part, ils n'ont pas le droit de le faire parce que c'est quand même soumis à des autorisations. Et puis, donc on est obligé de les faire partir par l'intervention de la police municipale. Et on s'est retrouvé face à des situations vraiment difficiles à gérer avec des gens en pleurs parce qu'ils veulent juste vendre 2-3 affaires pour pouvoir faire un petit peu d'argent pour la fin du mois, pour acheter à manger pour la famille, etc. Donc on s'est dit que l'idéal, vu qu'on avait cette structure-là, c'était de leur mettre à disposition, en fait, et puis de leur laisser de l'espace sécurisé. Aujourd'hui, on essaye de refaire vivre la commune. On essaye de permettre aux gens de se re-rencontrer. Et justement, avec cette opération-là, on se rend bien compte depuis ce matin que les gens, ils sont contents, en fait, de venir. Ils avaient besoin de sortir de chez eux.
Ce matin, l'association Saint-Vincent-Paul proposait des vêtements chauds au kilo et distribuait du riz gratuitement aux personnes titulaires de l'aide médicale. L'association de soutien et d'aide aux personnes âgées et handicapées, quant à elle, vendait des vêtements afin de pouvoir reconstruire sa structure qui a entièrement brûlé. Ce marché est une aubaine pour toutes les victimes des exactions.
Moi, c'est Patricia, responsable des épiceries de la société de Saint-Vincent-de-Paul. Comme notre épicerie elle a été brûlée pendant les événements, ils nous ont proposé d'avoir une place au marché communal de Païta.
Les gens nous ont donné beaucoup de linge, de très jolies choses, parce qu'il faut savoir que l'Arsapa a entièrement brûlé. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a plus de local, on n'a plus rien du tout. Donc on essaie déjà de rendre service en vendant tout à 500 francs, même des très jolies choses. Et puis le peu d'argent qu'on récupérera, on pourra racheter un petit peu de matériel pour relancer un peu.
Aujourd'hui, on fait un marché pour essayer d'écouler quelques plantes et quelques sacs de terreau qui nous restent après ce qui nous est arrivé le 15 et 16 mai, parce qu'on n'a plus aucune surface de vente. Mais à côté de ça, nous, déjà, on est 4 gérants et on était toute la famille qui travaillait à l'intérieur, donc on n'a plus aucun revenu.
Le marché reprend demain matin de 6h à midi. Il sera proposé tous les vendredis et samedis du mois d'août sur la place du marché municipal de Païta. Pour toute autre information, vous pouvez contacter le 95 61 08.
Il est 11h53. Dans un instant, nous développons l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Des piqûres regroupées ou alignées sur votre peau qui vous démangent, ce sont des punaises de lit. Pensez Formula 4D, les punaises maîtrisées par une équipe appliquée. Info sur formula4d.com.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
On va commencer par l'actualité en métropole et Lucie Casté prise en défaut réglementaire. C'est en tout cas ce que dénonce le Canard enchaîné qui l'épingle pour avoir fait de la politique sur ses congés. Celle qui a été désignée candidate du nouveau Front populaire pour Matignon est aussi directrice des finances et des achats pour la ville de Paris. Mais pendant les discussions politiques, sorte de campagne, elle a omis de se mettre en disponibilité, mais seulement en congé. Et c'est interdit, note l'opposition municipale de droite. Le groupe Changer Paris a saisi la justice et demande au parquet national financier de trancher pour manquement au devoir de réserve. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Le groupe anciennement présidé par Rachida Dati s'interroge sur la compatibilité entre l'engagement politique de Lucie Casté et son rôle de haute fonctionnaire chargée de la direction des finances de la ville de Paris. La prétendante du nouveau Front populaire pour Matignon aurait simplement posé ses congés jusqu'au 30 août avec l'espoir qu'Emmanuel Macron la nomme première ministre. La droite municipale demande donc à la justice de statuer sur un possible conflit d'intérêts, sur un éventuel détournement de fonds publics ainsi qu'un potentiel manquement au devoir de réserve. Aurélien Véron, porte-parole du groupe Changer Paris.
Être fonctionnaire, c'est des engagements vis-à-vis des citoyens. Et cet engagement, il impose une neutralité politique. Encore une fois, un fonctionnaire a un devoir de réserve, sinon il n'est plus fonctionnaire. Ça veut dire qu'il n'y a plus de neutralité de l'État ni des services publics. C'est une vision de l'État qui n'est pas forcément celle qui est fixée dans la loi. Donc j'aimerais que le parquet national financier, en tout cas sur le cas de Lucie Casté, nous en dise plus.
De son côté, Lucie Casté revendique le droit d'avoir des activités politiques. S'il le faut, le moment venu, je me mettrai en disponibilité, se défend-elle. Rachida Dati, enfin, regrette un mélange des genres entre militantisme et service du public, dont les directeurs de la ville de Paris seraient, selon elle, coutumiers.
À l'étranger, la riposte sera inéluctable. Israël ne sait pas quelle ligne rouge elle a franchi. Ce sont les mots du chef du Hezbollah, alors qu'Israël a tué un commandant du mouvement terroriste au Liban, soupçonné d'être responsable du tir de roquette sur un village du Golan qui a causé la mort de 12 enfants et adolescents sur un terrain de football. Israël, qui est aussi responsable de la mort du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, tué hier à Téhéran, et c'est un camouflet pour l'Iran, explique le géopolitologue Gérard Vespierre.
Il n'y a pas eu de blessés iraniens, il n'y a pas eu de morts iraniens, il y a eu simplement une grande blessure d'amour-propre, de ne pas avoir vu l'opportunité que s'offrait effectivement à Israël d'intervenir et de ne pas avoir vu les éventuels missiles, puisque les Iraniens eux-mêmes ont parlé de raids. Donc s'il y a eu un probablement deux missiles qui sont arrivés, parce que dans des opérations de telle qualité, il faut doubler impérativement la probabilité de frappe et donc d'envoyer deux missiles en même temps. C'est-à-dire que la défense aérienne iranienne, à nouveau, a été prise en défaut.
Gérard Vespierre, politologue, interrogé par nos confrères de CNews. Et puis l'actualité à l'étranger est aussi marquée par cet échange de prisonniers d'une ampleur qu'on n'avait pas connue depuis plusieurs années. Il concerne Moscou et plusieurs pays. 26 personnes ont été relâchées par la Russie et ont pu rejoindre Istanbul. Les négociations ont en effet été menées par la Turquie en concertation avec les pays concernés. Aucun Français ne figure parmi les prisonniers relâchés par Moscou. 11h57, la dernière pause avant de parler évidemment de sport et des Jeux Olympiques. Ce sera ensuite le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Mazda informe son aimable clientèle de l'ouverture de la concession de 8h à 15h à Magenta, rue Auguste Bénébig. Arrivage récent du nouveau Mazda CX-90, un autre monde, une autre dimension.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pare-douche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec le sport, et avant de retrouver Jean-François Baudet, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
La page de sport est évidemment direction Paris pour les JO.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et la nouvelle de la matinée pour nous, c'est évidemment Maxime Groussel et Fichou. Il ne se présentera pas sur la finale du 50 mètres nage libre alors qu'il était qualifié.
Et oui, il avait réalisé le sixième temps des demi-finales, mais le nageur calédonien a décidé de se préserver et de privilégier le 100 mètres papillon. En effet, les demi-finales sont programmées dans la foulée de la finale du 50 mètres nage libre. Pour Malia Metella, vice-championne olympique à Athènes, Maxime Groussel a pris la bonne décision.
Donc il est beaucoup plus attendu sur le 100 mètres papillon. Il a vu que le 50 c'était moyen, il a passé les séries, les demi. Il se dit bon, bah, on va tout miser sur le 100 papillon, c'est pas une mauvaise chose.
Le 100 mètres papillon qui est sa spécialité à Maxime Groussel, il est champion du monde en titre. Le Calédonien prendra le départ des séries ce soir à 20h, heure de Nouméa. Florent Manaudou sera lui en revanche bien présent demain matin à 5h30 en finale du 50 mètres nage libre. Il tentera de décrocher une quatrième médaille olympique. Et toujours en natation, la Calédonienne Emma Terebo n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du 200 mètres d'eau. Elle réalise le 9e temps des demi-finales. Et maintenant qu'on fait le tour des Calédoniens, c'est terminé pour un autre Calédonien, Nicolas Goyard, qui a terminé 15e des qualifications d'IQ Foil en voile. Il est donc éliminé du tournoi olympique.
Alors, malgré une journée au ralenti, la France reste tout de même sur le podium du tableau des médailles.
Et cette journée ne restera pas dans l'histoire, c'est sûr. Seul Titouan Castric a réussi à décrocher une médaille, celle d'argent sur le kayak slalom. À seulement 19 ans, il est passé à 2 petits dixièmes du titre de champion olympique. Et au classement général, la France est 3e avec 8 médailles d'or, 11 d'argent et 8 de bronze. La Chine est toujours en tête devant les États-Unis.
Et puis une grosse ombre au tableau pour la délégation française. Kevin Mayer est finalement forfait pour le décathlon.
Le décathlonien, double médaillé d'argent à Rio et Tokyo, l'a annoncé dans la nuit. Il n'est pas suffisamment remis de sa blessure récente à une cuisse. C'est forcément une grosse déception pour le Calédonien Florian Geffroy, ancien décathlonien et préparateur physique de Kevin Mayer.
Ah oui, effectivement, c'est une grosse déception. Il s'était qualifié, il a mis beaucoup de temps à revenir de plusieurs petites blessures en fait. Et donc là, au championnat d'Europe, il revenait d'une première déchirure à l'ischio-jambier. Il arrive à se qualifier en faisant pourtant des contre-performances. Donc on savait qu'il était bien et qu'il avait largement le niveau pour envisager une médaille, voire aller chercher l'or. Et bah forcément, en plus c'était à Paris, c'était à la maison, donc ouais, bah forcément il y a tout le staff qui est déçu et on n'imagine pas sa déception à lui. Forcément, c'est dur.
Kevin Mayer qui a donc déclaré forfait, mais la France pourra compter sur Mackensen Gletti, médaillé de bronze au championnat d'Europe à Rome en juin dernier. Le décathlon masculin démarre ce soir à 19h15 avec le 100 mètres.
Et puis le JO, ce sont aussi de belles histoires. Et l'histoire de la journée concerne le 20 km marche, Léo Fichou. On pourrait même parler de l'histoire des JO.
Et oui, Aurélien Quignon est devenu papa quelques heures avant de prendre le départ du 20 km marche. Il n'a dormi que 30 minutes, mais le Français a terminé 9e et a même battu son record personnel. Une journée sans médaille, mais une journée en or pour le marcheur tricolore.
Allez, on passe au judo avec une première journée sans médaille également pour la délégation française. En tennis de table, dans une aréna Paris-Sud acquise à sa cause, Félix Lebrun, le pongiste, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi olympique.
Et oui, le public était en feu cette nuit pour encourager le Français et il l'a fait. Félix Lebrun s'est imposé au terme d'un long combat sur le Taïwanais Lin Junyu. Une victoire 4-7 à 3.
L'ambiance est géniale, ils sont super cool, ils m'encouragent comme jamais, ça me pousse comme je n'ai jamais joué de match avec une ambiance comme ça, et je suis tellement heureux de pouvoir profiter, d'avoir réussi à jouer un très bon tennis de table depuis le début des JO et de profiter un max de ce public qui est incroyable.
Félix Lebrun affrontera ce soir le chinois Fan Zhendong. Autre qualifié pour le dernier carré, mais en boxe cette fois, c'est Sofiane Oumia, le vice-champion olympique à Rio en 2016, est en demi-finale des moins de 63,5 kg. Il est assuré de décrocher une médaille, puisqu'en boxe, les perdants des demi-finales gagnent également le bronze. Et puis en surf, deux bonnes nouvelles pour le camp tricolore. Kaoli Vast, chez les hommes, s'est qualifié en demi-finale. Joanne Defay, elle, dispute actuellement les quarts de finale. Elle est opposée à l'américaine Carissa Amour.
Encore quelques infos JO avec un tour des sports collectifs.
En handball d'abord, alors que rien ne va chez les garçons, les filles, elles sont qualifiées pour les quarts de finale. Elles sont assurées de terminer première de leur groupe grâce à leur large victoire 38-24 cette nuit sur l'Angola. Victoire également des Françaises du basket. Elles ont gagné 75-54 contre le Nigeria. La deuxième victoire en deux matchs pour les tricolores. Et puis on parle enfin de golf. Victor Pérez est 29e. Il a terminé la journée à moins un sous le par et à 7 coups du leader, le japonais Hideki Matsuyama. Mathieu Pavon, lui, a fait le par. Il est 42e à 8 coups du leader. La deuxième journée démarre à 18h, heure de Nouméa.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et puis vous le savez, à l'occasion de ces Jeux, on joue aussi tous les jours sur Radio Rythme Bleu.
De mémoire de jeu avec les stations chez les Pacifiques.
Avec votre carte fidélité, toujours des remises sur le carburant et plein d'autres avantages.
De mémoire de jeu pour gagner chaque jour un bon carburant de 5000 francs grâce à notre partenaire. Voici notre question aujourd'hui. Quelle athlète française a été surnommée la petite fiancée de la France? Si c'est Colette Besson, vous tapez JO1. Si c'est Christine Aron, vous tapez JO2. Si c'est Laura Flessel, vous tapez JO3. Et vous envoyez votre réponse évidemment au 3146. Vous avez jusqu'à 17h pour le faire. C'est l'heure du tirage au sort parmi les bonnes réponses. Le gagnant remporte, je vous le rappelle, un bon d'essence de 5000 francs offert par notre partenaire. Son nom dans le journal de 17h45.
Dans vos stations Shell et Pacifique, gagnez 3 Toyota Hilux, 730 cartes de carburant à 15 000 francs et profitez tous les jours de nos offres fidélité et des bons plans en magasin. Rendez-vous vite dans vos stations Shell et Pacifique et n'oubliez pas votre carte de fidélité.
Une dernière info sport avec du football dans la région pour terminer ce journal. Les moins de 16 ans disputent cet après-midi le deuxième match du championnat d'Océanie de leur catégorie d'âge. Après leur défaite 2-0 sur les Samoa, ils affrontent Tahiti à 15h. La victoire est obligatoire s'ils veulent se qualifier pour les demi-finales. Il est 12h04, vous restez avec nous, c'est la fin de ce journal. Mais dans un instant, c'est le magazine Transparence. Elisabeth Noir reçoit cette semaine Philippe Blaise.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.